Radio Kapi.
À la une, 179 personnes tuées par différents groupes armés actifs en Ituri, rien qu'au mois d'août dernier. Il faut que cette situation d'insécurité s'arrête. Message du chef de bureau de la MONUSCO en Ituri en ce 21 septembre où le monde célèbre la paix. Et puis ce message d'espoir pour les habitants de Kwamout dans le Maïndombe. Des dispositions sont déjà prises par le gouvernement central pour contrer les violences dans ce territoire à la suite du conflit Teke-Yaka. C'est ce qu'a déclaré Rita Bola, gouverneur de Maïndombe. Et puis, il s'observe actuellement une hausse démesurée du prix de carburant à Kindu. Téné, en quelques jours, le litre est passé de 4500 francs à 10 000 francs congolais ou plus. Pour en parler, nous recevons Babou Ali Nazareth, président des pétroliers du Maniema et conseiller provincial de la FEC en charge des hydrocarbures. Madame, messieurs, bonsoir. Chaque fois qu'une vie est ôtée, on crée des rancœurs et quand on crée de la rancœur, on s'engage progressivement de nouveau dans la spirale de la vengeance et de la violence. Ces propos sont du chef de bureau de la MONUSCO en Ituri à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Rien qu'en août dernier, dit-il, 179 personnes ont été tuées par des éléments des différents groupes armés actifs dans l'Ituri. Pour Marc Carnassoro, il est temps que les fils et filles de cette province prennent conscience de la responsabilité des uns et des autres face à cette crise qui endeuille la province de l'Ituri depuis 5 ans. Le responsable de la MONUSCO en Ituri estime qu'il est temps que chacun œuvre pour la paix afin de soutenir les efforts des autorités, du gouvernement et de la MONUSCO. Carnassoro s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidile.
Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on puisse tourner la page et passer à autre chose. Chaque fois que quelqu'un va tuer l'autre, il crée des blessures. Et sur ces blessures vont se créer de nouvelles tensions, des rancœurs. Chaque fois qu'une vie est prise, ça entraîne des rancœurs. Et en général, ces rancœurs vont se transformer en vengeance. Et ça ne s'arrête pas. C'est totalement inutile et ça n'a pas de sens. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement provincial pour que le PDDRCS soit lancé ici le plus tôt possible. On nous a informé que le Premier ministre a donné instruction que l'Ituri soit la priorité. Donc du 2 au 11, nous allons avoir toute une équipe ici avec le coordonnateur national pour finaliser le plan opérationnel, pour proposer à ces communautés un moyen d'absorber leurs jeunes. On ne va pas encore continuer à approfondir les blessures.
Mettre fin au racisme, bâtir la paix, c'est justement le thème choisi cette année pour célébrer la Journée internationale de la paix, une journée consacrée au renforcement de l'idéal de paix, tant au sein des pays que des peuples entre eux. Aujourd'hui, le racisme gangrène les sociétés, normalise la discrimination et alimente la violence, ce qui justifie le choix de ce thème. Sophie McLean fait partie de l'équipe spéciale de lutte contre les violences sexuelles basée sur le genre à la police des Nations Unies UNPOL Bukavu. Elle nous parle ici de ce qu'elle fait tous les jours pour créer un monde inclusif dont elle est fière. Elle s'est confiée à Rachel Kessembangu.
Après avoir œuvré dans le domaine de la violence sexuelle et domestique dans mon propre île, Canada, j'ai décidé depuis l'année dernière de relever un défi personnel et de venir prendre part à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et les violences sexuelles liées au conflit en RDC à travers justement cette équipe spécialisée de police-là qui est ici à Bukavu au sein de la MONUSCO. Je me savais privilégiée avant de quitter ma terre natale, mais j'ai compris à quel point je l'étais en côtoyant le peuple congolais, les victimes et aussi les OPJ des EPVS avec lesquels je mène principalement cette lutte. Je suis fière d'être ici à leur côté, de les appuyer du mieux que je puisse et d'assister à leur réalisation. Je me sens privilégiée encore plus parce qu'à tous les jours, je vois des Congolais qui œuvrent pour soutenir l'inclusion de différentes manières. En réalité, c'est nous qui nous imposons des limites, des couches inutiles de jugement, de préjugés, des craintes, sans avoir un fondement réel ou la connaissance de l'autre. La division en 2022 n'a absolument plus raison d'être, il va falloir qu'elle fasse place à l'inclusion. Chacun de nous a droit à l'amour, à la sécurité et au respect.
Par ailleurs, le docteur Denis Mukwege exhorte l'opinion congolaise à ne pas encourager un retrait précipité et non responsable de la MONUSCO. Le faire, c'est jouer le jeu des ennemis de la paix, a déclaré le prix Nobel de la paix 2018. C'était lors d'une conférence internationale sur la paix tenue la semaine dernière en Belgique, une activité organisée par le mouvement citoyen Conscience Congolaise pour la paix, COPAX en sigle. On écoute le docteur Denis Mukwege dans cet extrait proposé par Cynthia Bashizi Nabizana.
Le partenariat avec les autorités congolaises n'a pas non plus rendu la mission de l'ONU facile. Pourtant, nous invitons nos compatriotes à ne pas se tromper de lui et nous pensons qu'il ne faut pas encourager un retrait non responsable et précipité de la mission onusienne. Et ici, je l'ai dit en toute responsabilité. Je sais que ce n'est pas populaire, mais nous devons être responsables. Et nous devons éviter de jouer le jeu des ennemis de la paix en République démocratique du Congo. Car le vide que peut laisser les forces des Nations Unies, même si elles ne sont pas efficaces, serait de nature tout simplement à favoriser le chaos total à l'est de la République démocratique du Congo. Et ceux qui souhaitent ce chaos total auront le libre passage de pouvoir continuer à exploiter notre pays.
Direction le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. La société civile continue à mettre la pression sur les autorités pour exiger la reprise par les FARDC de la cité frontalière de Bunagana ainsi que toutes les localités occupées par les rebelles du M23 depuis plus de 3 mois maintenant. Dans une déclaration faite hier à Rutshuru, la société civile a indiqué qu'un mois après la promesse faite par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, de tout mettre en œuvre pour récupérer cette entité d'importance capitale, rien n'a été fait sur terrain et la population déplacée continue à souffrir en milieu de refuge. Les détails dans ce reportage de Goma, rendu par Blaise Shindani Kambala.
D'après le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Bambaz, des milliers d'habitants déplacés vivent dans des conditions inhumaines, dans plusieurs sites privant leurs enfants de poursuivre leurs études. De plus, ils n'ont pas accès aux soins de santé ni aux services sociaux. Cette occupation a engendré d'énormes conséquences socio-économiques pour la population de Rutshuru. Une situation inacceptable. La société civile a annoncé une série d'actions, notamment le non-paiement des taxes pour exiger le retour de la paix et de la sécurité.
Nous devons nous liguer tous ensemble pour que les FARDC prennent leurs responsabilités afin de traquer ces bandits d'IAM 23 et leurs alliés. C'est comme ça que nous venons de décréter 1. Des sittings illimités à partir de ce jeudi. Nous venons de demander la suspension de la perception ou le paiement de toutes les taxes et impôts sur le territoire de Rutshuru. C'est nous qui payons ces impôts, nous la population. Et du moment que nous voyons que les impôts que nous payons, nous sommes dans l'insécurité. Il n'y a pas de raison de continuer de payer les impôts pendant que nous sommes dans la difficulté.
Pour rappel, les rebelles du M23 occupent depuis plus de 3 mois la cité de Bunagana et ses environs. Ils y ont installé une administration parallèle et ont instauré notamment des travaux communautaires forcés en plus du couvre-feu à 19h local, sans compter d'autres restrictions comme par exemple l'identification du bétail.
Entre-temps, en Ituri, 6 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque des rebelles ADF mardi à Tolitoli, village situé à 47 km de Mambasa centre sur la nationale numéro 4. Selon plusieurs sources, ces rebelles ont également incendié 5 camions-citernes transportant du carburant. La coordination de la société civile Force Vive parle d'un acte de sabotage qui coïncide avec la visite du Premier ministre arrivé à Bunia. Le récit de Martial Kizabiamungu.
5 camions-citernes transportant des produits pétroliers des Bunia vers Kisangani sont tombés dans une embuscade des hommes armés identifiés aux ADF appuyés par l'air supplétif des Maïmaï à Tolitoli. Selon plusieurs sources, ces rebelles occupaient déjà ces villages pendant la journée. Ils ont tiré à bout portant sur les chauffeurs d'un camion de nationalité somalienne qui est mort sur place. Ils ont ensuite abattu 5 autres personnes et incendié les véhicules et containers du carburant. Dans sa communication ce mercredi, la coordination provinciale de la la société civile, les forces vives de l'Ituri qualifient cette nouvelle attaque des ADF de sabotage qui intervient les jours de l'arrivée à Bounia du premier ministre Samalou Kondé. Son coordonnateur Dieudonné Lossa demande aux autorités de stopper ces violences des groupes armés à l'Ituri. L'administrateur assistant du territoire de Mambasa avance de son côté un bilan des 4 camions citernes incendiés et des 2 morts, dont un chauffeur et un rebelle des ADF dont l'arme a été récupérée par l'armée. Il ajoute que les forces loyalistes poursuivent les ratissages pour neutraliser ces hommes armés en errance dans cette zone. Bounia, Martial Kizabiawungu, Radio Okapi.
Et puis, on ne parlera plus de tueries ni des actes barbares dans le territoire de Kwamout, dans le Maïndombe. Désormais, la population de cette partie du pays sera sécurisée. Déclaration de Rita Bola, gouverneure de Maïndombe. Elle indique que toutes les dispositions sont déjà prises par le gouvernement central pour mettre fin aux violences enregistrées dans ce territoire à la suite du conflit entre les Teke et les Yaka. La gouverneure de Maïndombe, Rita Bola, l'a dit à Irène Boma.
C'est vraiment une très bonne information suite à ma rencontre avec le chef de l'État, que je remercie en passant. Son Excellence M. Antoine Tshisekedi Chilombo m'a fait participer à une autre petite réunion du comité de sécurité nationale. Voilà, tout a été déjà fait. Les moyens ont été déjà mis à la disposition. Et incessamment, ça peut être maintenant, ça peut être ce soir, ça peut être la nuit, ça peut être dans une heure. Donc tout est mis en place dans la route de Bandundu, Kintilimongata. Vous allez voir les dispositifs et je pense que... On en parlera plus de Kwamout. Oui, on parlera du bien de Kwamout. Bon, le nombre exact, on ne peut pas dévoiler non plus. Mais je vous dis qu'il y a un bon nombre. Les généraux de l'armée, les généraux de la police sont là. C'est dans leur stratégie. La population de Maïndombe, voilà, les bonnes décisions sont prises. Rassurez-vous, ce que j'ai vu de mes propres yeux, les dispositifs. Donc aujourd'hui, je peux dire, moi, que enfin, on va agir. Pour Kwamoutou, Kwamoutou sera encerclé. La présence des militaires et des policiers sera dans tous les territoires de Kwamoutou. Et on n'en parlera plus de ces tueries et de ces actes de barbares.
Lubumbashi, un incendie s'est déclaré mardi dans l'après-midi dans un parking de la commune Kenya, plus précisément à l'angle des avenues du marché et circulaire, sans causer des morts. On déplore cependant de nombreux dégâts matériels. La bourgmestre de la commune Kenya, qui déplore cet incident, appelle les commerçants de son entité à avoir la culture des assurances pour éviter de tout perdre en cas de sinistre. Récit des faits avec Jean Ganduka Bongo.
Plusieurs heures après l'incendie, les feux n'est toujours pas maîtrisé à certains endroits. À d'autres, la fumée continue à se répandre, obligeant la plupart des personnes à se cacher le nez pour ne pas aspirer l'odeur qui se dégage. Un témoin trouvé sur place tente de relater les faits.
On était en train de souder les camions qui devraient se diriger vers Manon. Comme il y avait du carburant à bord, bon, ils ont commis une imprudence et puis tout est calciné. Vraiment, vraiment, c'est triste. Il y avait au moins 28 fuites de carburant. Oui. Le brasier était vraiment énorme.
Les dégâts sont très importants. Il s'agit d'une dizaine de grands camions de marque OO transportant diverses marchandises, dont des dizaines de bidons d'essence, des mousses, des chaises en plastique, des sacs de poissons et autres qui sont complètement calcinés. Près de 10 magasins de vente de pièces de rechange et certains dépôts sont également touchés. À notre passage, nous avons rencontré les propriétaires de magasins qui fouillaient dans les décombres espérant retrouver quelques marchandises, mais hélas, pas grand-chose à récupérer. Jenna Maloba, bourgmestre de la commune de Kenya, qui déplore cet incident, se pose la question de savoir ce que deviendront les propriétaires de ces véhicules et surtout les propriétaires des marchandises, notamment pour ceux qui n'ont pas souscrit à la police d'assurance. Voilà pourquoi elle invite les transporteurs d'avoir la culture de l'assurance pour se faire indemniser en cas de sinistre du genre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, la FEC, Fédération des entreprises du Congo, dénonce devant le Premier ministre Samalou Kondé la spoliation d'une partie de la concession de Texaf Utex Africa par un groupe d'individus sous couvert d'un arrêté du ministère de l'Urbanisme et Habitat. D'après Albert Yuma, président de la FEC, il s'agit là d'un fait grave qui enfreint les droits et décourage les investisseurs étrangers opérant en RDC. Il a affirmé hier, à l'issue d'un entretien avec le chef du gouvernement en présence du comité exécutif de gestion du groupe Texaf Utex Africa, Albert Yuma, dans cet extrait de la cellule de communication de la primature que nous propose Billy Van Lutumba.
Entre l'avenue Colonel Mondjiba et le fleuve, il n'y a que Utex Africa depuis 1926. Mais il y a des personnes privées sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme sont venues casser le mur de clôture du Utex Africa avec un engin lourd le long de la rivière Makelele pour de force commencer un lotissement. Après plusieurs tentatives infructueuses vers les autorités qu'on pensait être en charge, nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre pour lui expliquer ce sujet qui est un problème grave sur le climat des affaires en RDC. C'est un des combats en AFEC pour attirer les investisseurs locaux et étrangers, mais avec de telles situations, ça complique la chose. C'est que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. Et deux, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier.
Le syndicat national des médecins, SINAMED, dénonce la brutalité et la violence de la part de la police durant la marche pacifique organisée ce mercredi à Kinshasa, marche au terme de laquelle les médecins ont remis un mémorandum contenant leurs revendications au gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, Fabien Zoku, secrétaire général adjoint de SINAMED, affirme que les médecins attendent des excuses de la part des autorités de la police, faute de quoi des mesures seront prises.
Actualité Afrique Monde.
Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. Des 667 migrants, on dénombre 648 hommes, 14 femmes et 5 mineurs.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Babou Ali Nazareth, président des pétroliers du Maniema et conseiller provincial de la FEC en charge des hydrocarbures. Il nous parle de la hausse vertigineuse du prix de carburant qui s'observe actuellement à Kindu, chef-lieu du Maniema. Babou Ali Nazareth s'entretient avec Florence Kiza.
Monsieur Babou Nazareth, bonjour.
Bonjour Madame Kizalunga.
Il y a hausse vertigineuse de carburant aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas encore?
Bon, je pense qu'il y a des choses que nous devons nuancer là-bas. Il y a la nouvelle structure de prix qui a été appliquée. Il y a une petite hausse de prix qui a été appliquée depuis le vendredi passé. Mais aujourd'hui, nous sommes en rupture des stocks dans la ville de Kindu. Nous autres, nous n'avons plus de carburant. C'est depuis hier que nous avons mis la corde dans toutes nos stations. Nous n'avons plus de carburant. Et nous venons d'apprendre que ce matin, les Kadhafi ont sur le prix de, peut-être qu'ils parlent de 10 000, de 9 000, de 8 500. Je n'ai pas trop de précision, mais il s'avère que le litre de carburant nage entre 10 000 et 9 000 francs aujourd'hui, chez les Kadhafi, bien sûr, qui vendent au bord des chemins.
À tout moment, vous parlez des carences des carburants, mais qu'est-ce qui fait défaut chez nous?
Bon, ce qui est la base d'abord, en premier lieu, c'est l'enclavement de la province d'Imanuma, la ville de Kindu en particulier. Elle est totalement enclavée. Alors, nous n'avons pas la facilité d'approvisionner les coins, d'où l'approvisionnement se fait dans des manières clandestines et très, très difficilement. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas des infrastructures pétrolières adéquates, je voulais dire, pour recevoir des quantités importantes. La troisième difficulté, c'est que nous n'avons pas des SOCOM, nous n'avons pas des sociétés commerciales importantes qui sont installées au Maniema. Il n'y a aucune, comme c'est le cas, par exemple, des majors, Engen, Total, Kobil et les autres. Ils ne sont pas là, ils ne sont même pas approche du monument, sauf la société indienne qui est représentée par ma modeste personne. Donc, ce sont là les difficultés qui font que régulièrement nous soyons en rupture des stocks, surtout l'enclavement de la ville de Kindu.
Bon, parlant de l'enclavement de notre province, il n'y a pas longtemps, vous les pétroliers, vous avez initié un projet avec le gouverneur du Maniement et de la Tchopo pour la réhabilitation du tronçon Kisangani-Ubundu. Vous êtes à quel niveau avec ces projets?
Évidemment, c'est un projet qui était en vie, qui a même démarré. Moi-même, je me suis déplacé de Kindu à Kisangani. J'étais allé voir les gouverneurs des provinces. J'ai été allé voir également le président de l'Assemblée. Nous avons échangé avec toutes les autorités dont je viens de citer là. Et il s'avère que les travaux ont vraiment évolué. Mais il manquait quelque chose, à peine 37 kilomètres qui restaient pour que la route soit complètement réhabilitée. Mais il y a des gros nids de poules qui ne permettent pas aux camions de passer. Surtout malheureusement qu'on est tombé dans la saison pluvieuse. Maintenant, il pleut presque chaque jour à Kisangani. Alors, cette saison aussi n'a pas permis de continuer avec les travaux. Donc, il y a rupture des financements, il y a Madame la pluie s'est invitée, donc c'est un problème sur un autre problème.
Pourquoi seulement le pétrolier du Maniema vous impliquez dans la réhabilitation de cette route? Vous avez quel intérêt?
Bon, c'est parce que c'est la route là qui nous approvisionne en tout. Donc, tous les produits de première nécessité. Nous ne sommes pas que les pétroliers. Tous les commerçants qui vont en dehors du pays, en dehors de la province, qui s'approvisionnent en dehors du Maniement, la plupart passent par cette route là. Si ce n'est pas cette route, alors c'est la route de Bukavu. Si ce n'est pas la route de Bukavu, vous avez le train qui, vous savez vous-même la situation des chemins de fer. C'est pas moi qui peux expliquer parce que je ne suis pas approprié de le faire. Donc, c'est la route vraiment qui peut nous faciliter et d'abord qui est moins coûteuse.
Aujourd'hui, maintenant, la situation est grave. Quelles sont les pistes des solutions que vous avez?
Bon oui, par rapport aux solutions, nous avons été invités hier par l'autorité provinciale à l'entremise de ce service. Nous avons échangé autour de ces sujets et nous lui avons donné des pistes de solutions. C'est par exemple, nous avons demandé que la SNCC nous secoure parce que nous avons des wagons déjà chargés à la SNCC. Moi personnellement, j'ai plus de 2 wagons chargés. Il y a plus d'un mois à la SNCC Kisangani, mais qui attendait d'être tacté pour arriver au Bundu et puis être acheminé à Kindu. Ça, nous avons donné le numéro de wagon. Nous avons demandé à l'autorité de s'impliquer pour que cela soit un peu fait rapidement. Et je pense, à mon avis, connaissant l'attitude du gouverneur quant à ces sujets, je pense que ça a été fait hier et nous attendons la suite auprès de ces autorités-là.
Et entre-temps, qu'est-ce que vous nous dites?
Bon, ce que nous allons demander à la population, c'est de garder leur mal en patience parce qu'à l'impossible, c'est la grâce de Dieu nous suffit. Il est vrai qu'il n'y a pas de carburant dans la ville de Kindu et l'approvisionnement est difficile. Si c'était par exemple les coins comme Bukavu, Bukavu, c'est à un pas du Rwanda. Déjà, on pouvait avoir le carburant en quelques heures. Mais à Kindu, il faut attendre des jours, hein. Si pas 3 à 4 jours, ça c'est sûr. Peut-être d'ici vendredi, on pourrait avoir des petites solutions, ça et là. Nous allons nous débrouiller comme des grands messieurs.
Monsieur Babou Nazareth, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.